soir, les sénateurs congolais ont rejeté l'idée de transférer les eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, tel que recommandé dans la déclaration finale du dernier sommet des chefs d'État sur le bassin du Congo et le fond bleu. Ils se sont ainsi exprimés vendredi dernier lors de la plénière sur l'examen du rapport de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme sur cette question. Selon le vice-président de cette commission, cette recommandation est un complot africain contre la République démocratique du Congo. Quelle lecture faire de cette situation? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec José Matikini, sénateur et vice-président de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme du Sénat. Il est au téléphone avec nous. José Matikini, bonsoir.
Bonsoir.
Albert Kabasele, bonsoir. Il est aussi au téléphone avec nous.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes docteur en télédétection du climat et donc expert du climat aux Nations Unies et directeur scientifique à l'Institut géographique de la République démocratique du Congo. Et enfin, cette fois-ci, en studio, en direct des locaux de Radio Kapi, Alki Tengue, analyste économique et stratège. Alki Tengue, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Et à tous, donc, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ce soir, nous parlons de ce sujet qui n'arrête de ressurgir au sujet des eaux de l'Ubangi. Les sénateurs congolais ont rejeté l'idée de transférer les eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, tel que recommandé dans la déclaration finale du dernier sommet des chefs d'État sur le bassin du Congo et le fond bleu. Ils se sont ainsi exprimés vendredi dernier lors de la plénière sur l'examen du rapport de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme sur cette question. La chambre haute de la RDC voit dans ce projet de transfèrement des eaux de l'Ubangi, un complot africain contre la République démocratique du Congo, Michel Kifinda.
Prenant la parole au perchoir du Sénat, le président de la commission environnement a démontré que les pays présents au sommet de Brazzaville ont décidé sans la RDC de transférer les eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad. C'est un complot contre la souveraineté de la RDC qui ne sera jamais accepté par les Congolais, ajoute le vice-président de la même commission, sénateur Masikini.
Le fait qu'on nous mette des accords déjà préétablis que nous devions signer alors que nous sommes quand même propriétaires du bassin à 62%, C'est un complot africain contre nous pour nous déposséder de notre souveraineté nationale sur nos ressources naturelles. Nous voulons bien partager avec les autres, mais qu'on nous laisse la liberté de décider quoi donner aux autres.
Pour faire valoir la position de la RDC, le sénateur Mokolo Apombo plaide pour une diplomatie offensive.
C'est un problème qui concerne tous les pays. C'est un problème qui intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo. Nous devons faire valoir nos arguments auprès de tous les partenaires.
Les sénateurs invitent par ailleurs le Tchad à investir ses 15 milliards de dollars destinés à ce projet pour développer Grand Inga. L'électricité produite sera transférée au Tchad qui pourra alimenter des usines de désencellement des eaux à partir de l'embouchure du fleuve Niger.
Alors José Masikini, sénateur et vice-président de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme du Sénat de la République démocratique du Congo, qui devrait d'ailleurs, si les conditions le permettent, nous rejoindre dans ce studio de Radio Kapi. Alors José Masikini, le projet du transfèrement des eaux de l'Ubangi est un projet qui date de plusieurs années déjà. Alors nous venons de l'entendre, le Sénat qualifie ce projet de complot contre la RDC. Pourquoi est-ce que c'est un complot selon vous?
Mais d'abord, il faut préciser une chose. Le transfert ne concerne pas les eaux de l'Ubangi. Parce que les eaux de l'Ubangi, la quantité n'est pas suffisante par rapport à la demande du pays du Sahel. Le projet consiste plutôt à faire de l'Ubangi un bassin de transfert. L'idée, c'est de prendre des eaux dans les affluents du Congo, dans l'ancienne province orientale, sur les Kimberi, la Ruim et la Lindi, et de les transvaser dans le bassin de l'Ubangi afin de les envoyer vers le lac Tchad. Mais c'est un complot parce que à Brazzaville, tout à tout avait été boutiqué pour nous faire accepter l'idée de signer un protocole d'accord pour transférer ces eaux. Et on ne peut pas accepter cela parce qu'il est évident. Et si les eaux du bassin du Congo sont transférées, ça va affecter d'abord tous nos écosystèmes du bassin du Congo, et puis ça va affecter le potentiel de notre grand barrage Dinga. Voilà. Donc d'où l'idée de leur donner de l'énergie électrique pour pouvoir eux-mêmes produire de l'eau à partir de l'eau de mer, de l'océan Atlantique.
Alors, José Masikini, ça c'est avec Brazzaville, le tout récent sommet des chefs d'État, mais on s'imagine bien que ce projet a déjà été entendu et évoqué plusieurs fois. À l'époque où ce projet est apparu pour la première fois, est-ce que le problème se présentait de la même manière? Et si oui, comment se présentait-il déjà à cette époque?
Mais d'abord, le problème, c'est la gestion irrationnelle des ressources naturelles dans la région du Sahel. À titre d'exemple, c'est la région du monde où l'indice de fécondité est le plus élevé. Comment voulez-vous qu'une région qui a des ressources limitées puisse avoir, n'avoir pas de planning familial? Le Sahel est une bombe démographique. Tout autour de l'Actchad, je crois qu'il y a environ 30 millions d'habitants. Sans compter les animaux domestiques qui dépendent des eaux, de la Tchad, et le déboisement qui a suivi. Donc c'est d'abord un problème du Sahel qui doit être réglé là-bas. Et s'ils ont besoin d'eau, ben, pour nous la solution c'est d'installer des usines de dessalement d'eau.
Monsieur le sénateur.
Du bassin du Niger, le bassin de rétention à Lubangui.
Monsieur le sénateur, pourquoi ces eaux de Lubangui sont-elles si sollicitées? La RDC n'est pas le seul pays à avoir un fleuve en Afrique. Hein. Il y a, de mémoire, si on en cite seulement quelques-uns, il y en a un certain nombre. Il y a le Nil, le Sénégal, le Niger, tel que vous venez de le signifier, ou le Zambèze, non?
S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris.
Je dis, pourquoi est-ce que ces eaux de Lubangui sont-elles si convoitées, alors qu'en Afrique, il y a plusieurs autres fleuves? Vous venez de citer le Niger, il y a le Nil et les autres.
Nous a dit au congrès, ici au Palais du Peuple, que nous sommes trop riches et que nous devions partager avec nos voisins. Mais c'est pas ça la solution. Partager, d'accord, mais qu'on nous laisse la liberté de décider ce qu'on doit donner aux autres ou pas.
Mais le Tchad est quand même plus proche, par exemple, du Sénégal, ou même, justement, assez proche du passage du fleuve Nil. Pourquoi on ne prend pas dans ces autres fleuves-là et on choisit seulement Lubangui?
Ben, ils ne seront pas prendre dans le Nil. Il est techniquement possible de prendre l'eau dans le Niger et de transférer dans le lac Tchad. Mais le problème, c'est que le Nigeria, qui est un pays qui a moins d'un million de kilomètres carrés de superficie, est déjà 140, 150 millions d'habitants. Voilà.
Ah, alors...
Donc, tous les pays du Sahel sont des pays à fort taux démographique.
Alors, vous évoquiez le complot tout à l'heure. Le président de la République peut, à l'occasion, peut-être se blâmer d'avoir été absent de cette réunion de Brazzaville qui a récemment remis cette question sur la table. Mais comment expliquer qu'en l'absence du président congolais, les autres présidents africains aient eu le courage de prendre une telle décision? Allô, José Masikini, la ligne se détériore sérieusement. Est-ce que vous nous recevez toujours? Allô, José Masikini? Nous avons perdu la présence de José Masikini via le téléphone. Nous allons poursuivre ce débat en faisant appel au professeur Albert Kabasele, docteur en télédétection du climat, expert du climat aux Nations Unies et directeur scientifique à l'Institut géographique du Congo. Professeur, vous avez entendu les questions que nous avons adressées tout à l'heure déjà au sénateur Masikini. Y a-t-il un complot contre la RDC? Pourquoi les eaux de Lubangui sont-elles choisi dans ce cas-ci?
Oui, mais je confirme que ce que le sénateur vient de dire est très clair et net. Il y a un grand complot contre la République démocratique du Congo. Et sachez que toutes les consultations qui se sont passées en amont à la réunion au symposium de Brazzaville, et on les a tenues sans la présence de la RDC, sans inviter la RDC. Et j'ai seulement appris qu'il y a une ONG qu'on appellerait ARD et qui a été invitée à tous les niveaux des négociations on n'a pas tenu compte que du gouvernement de la RDC et on n'a même pas demandé un point de vue au gouvernement congolais. Et ça, c'est du mépris envers la population RD congolaise que nous sommes.
Mais Albert Kabassé, on s'est quand même rendu compte que les autres présidents étaient là et que la RDC n'était pas représentée par son président. Est-ce que ce n'était pas aussi déjà une faute, une porte ouverte que la RDC elle-même avait donnée aux autres?
Bien sûr que la politique des chaises vides ne paye pas, mais nous avons été représentés par José Makila. Il a été mandaté par le gouvernement congolais et il n'y avait pas opportunité que Joseph Kabila se déplace parce que tout a été déjà boutiqué d'avance. Les termes de référence étaient déjà ficelés et il allait signer quoi? Il allait signer un complot. Donc c'était prudent qu'il ne se présente pas à Brazzaville. Et je pense que sur ce fait-là, la RDC s'est bien positionnée et s'est fait entendre. Donc je rappelle ici, si vous le permettez, je rappelle que ce projet commence depuis Mobutu, donc avec le pays de Sébelté et avec l'Italie en tête. Et aujourd'hui, ce projet a progressé. Et avec même Kadhafi, ce projet était en passe de se réaliser. Mais Mobutu a résisté jusqu'au bout. Et maintenant, le pouvoir ayant passé de main vers Kabila a compris aussi que ce projet ne date pas d'aujourd'hui. Et nous, les scientifiques, nous sommes là pour sonner la sonnette d'alarme. Nous ne pouvons, sous aucune forme, donner de l'eau douce d'Ubangi, soit comme canal, pour transférer les eaux du fleuve vers le pays du bassin du Tchad, pour une raison d'abord scientifique, et celle-ci. C'est-à-dire que Ubangi est en train de sécher, monsieur. Ubangi, qui était à environ 12 000 mètres cubes d'eau par seconde dans les années 50, se retrouve aujourd'hui entre 3 et 4 000 mètres cubes d'eau par seconde. Donc nous avons perdu plus de la moitié du débit d'Ubangi.
Alors pourquoi le Niger, qui est assez proche du Tchad, pourquoi on ne fait pas recours aux eaux du Niger?
Oui, mais on vient de vous donner la raison par les sénateurs. Ce sont des pays à très forte démographie et ils utilisent beaucoup d'eau avec leur système d'irrigation et ils jettent tout dans le bassin du lac Tchad et ce bassin s'est retiré, il est devenu presque souterrain et ce qu'on constate aujourd'hui, ce sont les eaux superficielles, mais la plus grande masse d'eau est allée dans le sous-sol, dans le fond des terres du lac. Et on dit aujourd'hui que ce bassin est en train même de récupérer son eau parce que il y a la chute de Mohamed Kadhafi, il y avait un canal qui était ouvert vers Tripoli et ce canal a été verrouillé et le lac est en train de reprendre petit à petit. Et la NASA a donné des images satellitaires qui prouvent aujourd'hui que Ubangi est en train de... Et donc, lac Tchad est en train de récupérer son eau. Lac Tchad n'est pas en déficit d'eau aujourd'hui. Le lac est en train de récupérer. Il n'y a pas opportunité de transférer les eaux du bassin du Congo vers le bassin du Tchad, parce que le lac Tchad est en train de récupérer. Mais on ne demande pas cette eau pour le lac, on demande cette eau pour l'irrigation, pour l'agriculture. Il faut qu'on nous dise la vérité.
Alors, professeur Albert Kabassélé, cette recommandation est là, elle est l'œuvre de plusieurs chefs d'État d'Afrique, elle a quand même un certain poids. Y a-t-il des chances que cette recommandation soit, malgré la protestation de la RDC, appliquée? Et si jamais elle l'était, quelles pourraient être les conséquences?
Mais c'est une déclaration de guerre, cher journaliste. Donc on vient de passer, on est au pic de la guerre des minerais. Nous sommes au-delà de 12 millions de morts et ça fait froid dans le dos. On parle des génocides quand il y a eu 6 millions de morts. Des juifs, des génocides quand il y a eu moins d'un million de morts au Rwanda, ainsi de suite. Mais au Congo, nous sommes à plus de 10 millions, voire 12 millions de morts dus à la guerre des minerais, du cobalt, du coltan. Et maintenant, c'est la deuxième guerre qui va commencer. la guerre de l'eau. Et une autre troisième guerre nous attend, la guerre de la forêt. Je pense qu'on en parlera. Il y a ce qu'on appelle un principe de vase communicant entre la forêt et l'eau. Quand on est un éléphant, on mange beaucoup. Nous avons eu de grandes forêts parce qu'on a un grand fleuve. Et dès que nous avons des problèmes avec notre fleuve, sachez bien que la forêt va en pâtir.
Merci. Merci, professeur. Espérons que toutes ces guerres prévisibles ne touchent jamais la RDC de manière concrète. Al-Kitenge, nous nous retournons vers vous, analyste économique et stratège. Comme je l'ai déjà signalé, ce projet des transferments de l'eau de Lubangui vers le lac Tchad est ancien. La RDC parle du complot. Vous l'avez entendu, vos deux prédécesseurs ont confirmé cette thèse. Pour vous, le stratège, qu'est-ce que vous en savez?
Merci beaucoup pour votre parole. Je vais m'embarrasser et embarrasser un petit peu mes deux frères parce que finalement là, il y a deux dimensions. La première dimension, elle est scientifique et la deuxième dimension, elle est politique. Mmh. Sur le plan scientifique, nous avons été totalement absents sur le débat et en fait, lorsque vous entendez le professeur parler, nous sommes toujours en train de supposer et nous ne donnons pas des éléments scientifiques vis-à-vis des autres. Et je crois que notre absence dans les différentes discussions nous coûte très cher aujourd'hui. Nous avons été extrêmement négligents depuis le temps de Mobutu jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas été au front. Je dis toujours une chose, lorsque vous êtes une opportunité pour l'humanité, il faut savoir prendre le devant. Maintenant, il y a la deuxième partie politique. C'est pour ça que vous remarquez qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Mais moi, je voudrais vous rappeler deux choses. Nous avons sur notre territoire les Mbororo. Nous n'arrivons même pas à les faire reculer. Mmh. Et les Mbororo ne sont pas une organisation super puissante, mais ils sont là. Nous avons les FDLR. Les FDLR, tout le monde sait d'où ils viennent et ils sont là. Pour quelles raisons nous allons justement reproduire exactement les mêmes mécanismes qui vont nous faire arriver ici une guerre prévisible? Aujourd'hui, vous savez, crier, commencer à raconter notre vie ne résoudra pas le problème. Il ne faut pas avoir du mépris pour des gens qui se battent pour la survie. J'ai cru entendre Emmanuel Macron tout à l'heure quand on parlait de l'indice de fécondité de nos amis tchadiens, mais Emmanuel Macron dit exactement la même chose des Africains en général et de nous, les Congolais aussi. Et donc, à un moment donné, il faut éviter de mélanger les choses. Je pense qu'au-delà de l'émotion, au-delà du complot apparent, il y a un problème sérieux qu'il faut être en mesure de résoudre. À mon avis, nous devons prendre part avec les meilleurs de nos scientifiques à des discussions avec les autres. Comme ça, argument à contre-argument, nous pouvons être en mesure de faire prévaloir la position d'État. Ce n'est pas une question politique. Aller décider d'une question comme ceci n'est pas une question que politique. En plus, le bassin, nous ne sommes propriétaires que de 62%. Nous ne sommes pas seuls propriétaires. Ça veut dire qu'en fait, avec ou sans nous, il risque d'y avoir possibilité qu'une décision qui remet simplement en cause les capacités militaires des uns et des autres fasse passer cette décision. Et je pense simplement que nous devrions être conscients de cela. La deuxième des choses, et moi j'ai dit encore une fois, c'est que nous devons éviter notre amour propre à excès. Et je pense que la chose la plus importante et la plus urgente aujourd'hui, c'est de trouver un terrain de discussion pour qu'une politique, une diplomatie positive se mette en place. Il est important de se rendre compte que si des gens meurent, ils n'ont plus rien à perdre. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent se lancer dans n'importe quelle initiative. Et je pense que le Tchad est dans une situation extrêmement difficile et il est important qu'on s'intéresse à savoir quelle part de géopolitique nous pouvons jouer pour être en mesure de donner une géostratégie à cette question. Parce que le boomerang peut nous revenir et nous n'avons pas nécessairement les moyens de pouvoir nous défendre autant que nous parlons si bien. Et donc, de mon point de vue, il faut être en mesure de développer des alternatives. Nous avons tendance à dire il est peut-être mieux pour nous qu'ils investissent cet argent dans Inga et que nous leur donnions, ben voilà, c'est peut-être une opportunité. Mais encore une fois, ce genre de choses se traite argument contre argument, expert avec expert. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de technique d'abord. Et je pense que notre absence dans les salons de discussion n'est pas nécessairement de nature à pouvoir nous aider. Moi, je pense simplement que aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à une guerre des minerais, comme disait tout à l'heure le professeur, et il prévoit une guerre de la forêt ou de bientôt, mais non, la première guerre qui va venir avant celle de la forêt, c'est la guerre de l'énergie. Nous sommes détenteurs d'un potentiel hydroélectrique extrêmement important dont le monde a besoin, dont l'Afrique a besoin, et nous n'arrivons pas à donner des réponses. Faute de donner des réponses, les gens vont venir trouver des réponses eux-mêmes.
Vous êtes stratège. Est-ce que, de manière concrète, vous pouvez recommander ce que la RDC peut faire concrètement? Il y a devant nous toutes ces guerres que nous sommes en train d'évoquer. Guerre de forêt, guerre
d'énergie,
guerre de l'eau, des minéraux, il y en a déjà. Quelle est la stratégie, soit globale, soit ponctuelle, centrée vers ces objectifs que le pays va utiliser?
Il faut descendre sur terre et il faut boire son orgueil. Il est important que nous engagions les discussions avec les pairs et que nous trouvions d'abord des réponses scientifiques à la question avant de trouver des réponses politiques. Et cette question, elle est éminemment scientifique. S'il est prouvé techniquement, et nous n'avons pas d'argument contre que il est possible que nous sauvions des vies, il faut juste trouver le deal. S'il est prouvé, et nous pouvons le prouver, si nos scientifiques sont capables de prouver à la face du monde qu'il y a impossibilité de donner cette solution, c'est argument contre argument d'abord qu'il faut le faire. Et donc, à mon avis, il faut dépolitiser la question, mettre les scientifiques face à d'autres scientifiques, établir la vérité et les faits, alors seulement passer à la diplomatie et à la politique.
Le président tchadien, Idriss Déby, a même ouvertement menacé de passer à la force en disant que si ils ne peuvent pas obtenir ça par des négociations, ils utiliseront la force. Et à cette question, j'ajoute une autre. Est-ce que le Tchad, à l'heure actuelle, considérant aussi l'élément que le professeur a ajouté tout à l'heure, c'est-à-dire que le lac Tchad est en train de récupérer son potentiel hydroélectrique, est-ce que le Tchad ne peut pas puiser ailleurs?
Rendez-vous bien compte que les menaces que nous avons reçues du Tchad, nous les avons déjà reçues à l'époque pour Similiki. On nous a dit de manière assez claire, vous osez y toucher, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et nous sommes rentrés dans notre petite culotte. Et donc, j'ai envie de dire, il est important qu'on se rende compte qu'il n'y a aucune guerre qui vaut la peine. Il est important qu'on se rende compte que si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Et aujourd'hui, il s'agit là d'une question réelle, qu'il ne s'agit pas de prestige, il ne s'agit pas de fierté, il ne s'agit pas d'amour propre, il s'agit de résoudre un problème géopolitique. Et je pense qu'il est important que la République soit sérieuse, performante et qu'elle ne soit pas émotionnelle.
Merci, Al Kitenge, nous revenons à vous tout à l'heure. Le sénateur José Masikini, est-ce que vous êtes avec nous maintenant?
Oui,
la ligne nous a fait défaut tout à l'heure. Alors, le débat a continué, vous nous avez certainement écouté.
Je viens d'arriver dans votre studio.
Oui, vous allez donc y arriver, vous continuez de nous suivre. La question, avant de recevoir la question, je vous invite d'abord à suivre ce commentaire de notre auditeur Ismaël.
Je suis Ismaël Podébis Amani. Avant tout, je voudrais féliciter tous les Congolais virés qui se sont montrés vigilants d'un éventuel transfert des eaux de la rivière Ubangi dans le but de fomenter l'alimentation de l'Est. Personnellement, je m'inscris à l'idée qu'il s'agit là d'une considération, d'autant plus que les experts de la nation nous ont montré que les lacs ont commencé déjà à remettre son état. C'était juste une question de période ou de fait naturel de l'environnement. Ce qui devient dorénavant évident et qui se gère des manœuvres de la part de certains États africains autour de la problématique et des eaux confirme davantage l'hypothèse selon laquelle la future guerre sera seule de leur blé. Ainsi, nous, Congolais, devrons être encore de plus en plus conséquents et responsables autour de la problématique des eaux.
Monsieur le sénateur, merci de nous avoir rejoint au studio. Alors, vous avez manqué une partie du commentaire de notre ami Ismaël. Alors, je vais essayer de vous rappeler ne fût-ce que la dernière partie. Parlant de son propre commentaire, il dit « Personnellement, je m'inscris à l'idée qu'il s'agirait là d'une conspiration, d'autant plus que les experts de la NASA nous ont démontré que le lac Tchad commence déjà à se remettre de son état. C'est juste une question de période ou d'effet naturel de l'environnement, pense-t-il. » Et conclut en disant « Ainsi, nous Congolais devons être conséquents et responsables. » Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire?
Mais j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a dit un de nos...
Le professeur, monsieur Al Kitenge, que voilà. Vous ne connaissez peut-être pas, de vue. Que vous connaissez.
Ouais, je crois que les scientifiques accompagnent les politiques. Et nous en avons besoin. Parce que moi, personnellement, j'ai participé au Conseil des ministres à Brazzaville, en lieu et place de notre ambassadeur. Et j'étais très mal à l'aise. Parce que quand nous parlons de complot, l'impression que j'ai eue au cours de ces réunions est que tout avait été préparé à l'avance. Et on voulait nous l'imposer. Je suis d'accord avec lui. que nous devons trouver une solution, une alternative au problème posé par le Sahel, pas seulement par le Tchad, mais par tout le pays du Sahel. Et je suis d'accord avec lui aussi que nous avons été absents pendant longtemps. Et que c'est maintenant que nous devons réagir.
Et que ce problème était connu.
Mais connu
et que même
très
ces derniers mois, ces derniers
depuis
jours, on en avait entendu parler déjà en sourdine.
Le problème n'est pas le volume d'eau du Tchad qui varie. Le problème, c'est la bombe démographique qui est dans le Sahel. Et ces gens ont besoin de ressources naturelles. La première, c'est l'eau. Nous devons trouver une solution définitive qui nous apaise et qui les apaise. Et à mon avis, la solution, c'est pas de prendre l'eau dans le bassin du Congo. Ça va perturber tous nos écosystèmes. Et ce ne sera pas une solution définitive. Parce que plus ils feront des enfants, plus la demande ira grandissante. Et nous avons imaginé, au niveau du Sénat, une réponse en prenant exemple sur d'autres pays à travers le monde qui produisent de l'eau potable à partir de l'eau de mer, des océans, de l'eau salée, qu'il était possible d'investir dans le Grand Inga et d'envoyer de l'énergie électrique sur le delta du Niger, de faire du Niger, du fleuve Niger, un bassin de rétention et de distribuer l'eau à travers des canaux, l'un vers le Tchad, l'autre vers le Sénégal. Parce que le Sénégal aussi a un problème d'eau. Ce n'est pas le Tchad, c'est tous les pays du Sahel. Le Niger, le Nigeria va déjà sur 200 millions d'habitants. N'oubliez pas ça. Et c'est le Nigeria qui refuse que les eaux du Niger soient transférées vers le lac Tchad. Parce qu'ils ont aussi des problèmes.
Merci, monsieur le sénateur. Professeur Albert Kabasele, nous allons ensemble écouter cette réflexion de Faustino.
Faustino, pourquoi pas du Kangala? Les eaux de la rivière Mbangi ne seront transférées nulle part, car les barrages d'Inga, Pedra, Sakapati, et si jamais les eaux sont prises vers l'Ambouchine, un petit vers Boma et Oumuanda, les grands navires auront mal à vendre les eaux de Boma, qui n'a pas de
Alors, l'intervention de Faustino était très difficile à écouter. Alors, professeur, je résume quand même l'essentiel de sa préoccupation. Il estime que la prise des eaux de Lubangi ne vont pas apporter le développement, mais plutôt ruine et destruction sur notre écosystème. Il explique même que si on récupère ces eaux de Lubangi, il y aura des problèmes sur le barrage d'Inga et les principaux ports du Congo central, Mwanda et Boma. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, vraiment, d'entrée de jeu, je pense que cet orateur a raison, mais je voulais revenir sur notre analyste politique qui a parlé tout à l'heure.
Al Kitenge,
il insiste, il dit que c'est un problème scientifique, et ça je suis d'accord, c'est un problème d'abord scientifique. Et le malheur de Congolais, c'est qu'ils ne lisent pas et qu'ils ne suivent pas la recherche dans des facultés. À l'UNIKIN, à l'UPEN, à l'UNILU et partout. Les Congolais écrivent quand même. Le problème a été posé à la conférence de Paris. Et à la conférence de Paris, j'ai fait un exposé là-dessus et même les Tchadiens étaient éclairés. Je leur ai dit ceci, que nous avons un problème sérieux dans les études qui ont été menées par l'Université de San Francisco en faveur des Tchadiens. Pour cette université, nous pouvons transférer environ 200 à 300 mètres cubes d'eau par seconde vers le lac Tchad. Et ça a été battu en brèche que cette demande est d'ailleurs insuffisante par rapport aux besoins tchadiens et des pays qui entourent le Tchad. Et deuxième raison, il y a beaucoup de calculs qui ne sont pas cohérents dans le projet tchadien. Ils disent par exemple quelque part qu'ils vont tirer l'eau d'Ubangi et vers le bassin du Tchad et ils vont créer un barrage artificiel qui va donner à peu près 200 mégawatts et ils vont utiliser 160 mégawatts pour pomper l'eau du Bangui. Et là, ça montre déjà qu'ils ne vont pas seulement prendre Ubangui, mais ils vont faire de sorte que Ubangui n'entre pas dans le fleuve, mais que le Ubangui sorte du fleuve en entraînant une partie d'eau du fleuve. Donc ils veulent utiliser Ubangui comme un canal chaînal qui ramène l'eau vers le bassin du Tchad, ce qui est inacceptable. Et ils disent même qu'ils vont donner quelques 20 mégawatts d'électricité aux pays qui vont leur donner de l'eau, c'est-à-dire aux riverains qui sont autour de Ubangui et du Centrafrique. Et
voilà. Professeur Albert Kabasele.
Oui.
Mais à entendre les déclarations dont vous nous faites le rapport ici, on arrive à la conclusion que le Tchad défie carrément la République démocratique du Congo. Alors dans ce cas, est-ce que Al Kitenge n'a pas raison de dire qu'au-delà des questions scientifiques pour lesquelles vous êtes tous d'accord, il faut aussi une intimidation militaire?
Justement, mais quand vous avez de l'or, quand vous avez des lingots d'or dans des coffres forts, il faut avoir des gardiens armés. Donc nous sommes riches. Le président Sarkozy nous propose de partager notre richesse, mais la France est trop riche qu'elle commence à partager ses richesses avec l'Allemagne et d'autres pays. Je vous informe ici que le Cameroun est un pays riche en eau. Le Cameroun a aussi plusieurs fleuves et le Cameroun est mitoyen au lac Tchad. Il est plus proche du lac Tchad. Et le lac Tchad appartient aussi au Cameroun. Donc, le Cameroun peut déjà prendre un de ses fleuves.
Le Vouri, par exemple.
Voilà. Mm-hmm. Et pourquoi le Nigeria refuse? Le Cameroun, à qui appartient même le lac Tchad, en partie, ils ont à peu près 35 kilomètres de rivage avec le lac Tchad. Ils ne veulent pas. Et on descend vers le Fénéon, vers le Mouton, vers un pays où il faut tout prendre parce qu'ils sont trop riches. Mmh. C'est facile à dire.
Donc là,
écoutez, mon frère, vous pouvez m'écouter. Il y a un problème. Je ne parle pas avec passion. Il y a des études que nous avons menées. Nous avons présenté la situation de Ubangui, même à Marrakech. Et dernièrement, nous l'avons présenté même à Bonn en Allemagne. On ne veut pas écouter la RDC. On ne veut pas considérer les scientifiques de la RDC.
Professeur,
on ne les invite même pas.
Merci.
Il y a des conséquences.
Merci, professeur.
Il y a des conséquences.
Merci, professeur.
Les conséquences seront inacceptables.
Merci, professeur. Je reviens à vous tout à l'heure, notamment pour nous éclairer sur le Hong qui ne veut pas écouter ces études assez intéressantes dont vous ne faites pas. Al Kitenge, je vous sens et je vous vois intéressé à réagir et c'est votre droit, mais juste avant votre réaction, écoutons avec vous cette réaction de Isaac.
Isaac Bampori qui de Bukavu au sud Kivu. Ce refus est le bienvenu car il s'agit d'une question de vie pour les Congolais. Il n'y a pas que chez nous où les Tchadiens peuvent puiser pour alimenter leur lac. Ils aillent à l'océan Atlantique en passant par le Nigeria ou par le Cameroun, ou bien à la mer Méditerranée en passant par la Libye des Éthiopies et aussi des zones d'eau. La RDC ne doit pas continuer à se montrer trop faible, sinon elle sera toujours l'arbre fruitier visé par tout baroudeur. Comme l'Angola qui nous a pris Kahemba et qui exploite seul le pétrole de l'enclave de Cabinda, comme le Burundi qui nous a pris Katou Tumba devenu Gatumba et tant d'autres cas. Il faut que ces pays soient dirigés par ceux qui seront les défenseurs.
Alors, Al Kitenge, Isaac est révolté déjà de constater qu'on nous grignote de temps en temps ça et là et recommande au lac Tchad, au fait au Tchad d'aller récupérer dans d'autres ressources d'eau à travers l'Afrique et à travers le monde. Comment réagissez-vous déjà de l'ensemble des commentaires que vous avez entendus mais aussi la réflexion d'Isaac?
Je pense que je vais encore souligner cette passion, cette émotion qui habite les Congolais lorsqu'il s'agit de leur pays, et c'est logique. Si nous pouvions avoir la même hargne pour travailler et pour défendre notre pays, pour défendre nos valeurs, nous irions éventuellement très loin. Moi, je voudrais simplement dire que lorsque on a un pays qui se traite de mouton, il y a un véritable problème que l'on doit être en mesure de relever et démontrer le contraire, j'espère.
Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de se motiver? Peut-être que le professeur est en train de dire que justement, on a trop regardé faire, un peu comme des moutons, mais que nous sommes pas et qu'il est temps de se réveiller.
Non, j'ai envie de dire comme lui que nous sommes véritablement des moutons et malheureusement c'est comme ça que nous sommes perçus. Et je voudrais rappeler une seule chose. Vous savez, quand vous avez la chance d'avoir 106 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique, dont 44 000 sur un seul site, vous avez une vocation internationale, vous avez une vocation géostratégique. Et ne pas mettre cela en application, mais en difficulté des économies comme celle d'Afrique du Sud et du Nigeria, qui nous regardent comme des enfants complètement inconscients, qui ont une réponse à des solutions du monde et qui n'ont pas la capacité de les mettre à la disposition de ceux-ci. Et alors, ils se fâchent contre nous. Je pense que nous devons être en mesure de jouer notre rôle. Nous avons un rôle central de par la nature, mais nous avons un rôle géostratégique qu'il faudrait que nous jouions. Si nous ne le jouons pas, eh bien, j'ai bien peur qu'il nous arrive malheur. Je ne le souhaite pas du tout. Encore une fois, je voudrais dire, sur cette question des eaux, notre absence a été une faute grave. Il est important que nous engagions dans les médias qu'il faut, dans les mécanismes qu'il faut, dans les forums qu'il faut, non pas la voix des scientifiques isolés, mais des scientifiques mandatés par l'État pour donner le point de vue de l'État, qui a été absent jusqu'aujourd'hui. Et notre absence a été considérée par les autres comme de l'arrogance ou éventuellement de l'insouciance ou de la légèreté. Et il est important que nous corrigions cet aspect des choses. Une question qui a été discutée pendant une vingtaine d'années, à un moment donné, il y a quand même une vérité quelque part, et la vérité, elle est scientifique, elle est démontrable par des faits. Et je crois qu'il est important que nous sachions de quelle manière nous désirons travailler et comment nous désirons communiquer sur les travaux que nous faisons. Il est important que nous n'ayons pas nos scientifiques isolés, il est important que l'État les prenne en charge et qu'il les mette au front pour qu'ils discutent avec les autres scientifiques, argument contre argument, recherche contre recherche.
Alors, à ce stade, il y a un auditeur qui a évoqué le risque pour des infrastructures déjà connues du pays, hein, de se sentir affecté immédiatement par une prise d'eau sur Lubangi. Il a parlé du barrage d'Inga, il a parlé des ports de Mwanda et de Boma. Est-ce que cette menace est réelle ou pas ?
Scientifiquement parlant, il est prouvé que pour des fautes internes, le débit d'eau sur le fleuve est en train de baisser. Il est déjà important que nous-mêmes, nous soyons en mesure d'avoir une stratégie de gestion de nos écosystèmes de manière responsable pour être en mesure de réalimenter correctement le fleuve pour que, à la fois nos différents beaches et notre centrale hydroélectrique à venir deviennent une réalité scientifiquement et techniquement viable. Ça reste une vérité. De là à justifier toutes les peurs, je pense que nous sommes allés quand même trop loin et notre absence aux différentes tables de discussion a été une faute stratégique. Et je crois encore une fois que au-delà des émotions, au-delà de l'amour propre que nous avons, ouvrons les yeux sur notre réalité. Nous avons des mbororos sur notre terrain, nous avons le FDLR que nous n'arrivons pas à refaire reculer. Il est complètement inutile de vouloir ouvrir des brèches et entrer dans des guerres qui ne vont pas nous apporter quoi que ce soit, simplement parce que nous n'avons pas l'intention de communiquer et de discuter avec les autres sur un terrain équitable qui est celui de la politique, de la diplomatie, éclairée par la science.
Al Kitenge, cette émission est bientôt terminée. Alors, si je comprends bien, pour résumer pour nos auditeurs, votre idée pour sauver cette situation des eaux de Lubangi, c'est notamment mettre vraiment au devant de la scène les personnes qu'il faut, notamment les scientifiques qui vont faire du lobbying pour le compte de la République démocratique du Congo afin que ce projet s'arrête et qu'on s'oriente vers des pistes, d'autres pistes de solutions.
Non, ce n'est pas qu'il s'arrête, qu'on mette les évidences de manière claire sur la table, de sorte que des décisions politiques et diplomatiques soient prises sur base des évidences mutuellement acceptées. À partir de ce moment-là, il ne s'agit pas de, d'amour propre, il ne s'agit pas d'émotion, il s'agit des faits. Et ça, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à faire cette démarche. Et je pense qu'il ne faut pas refuser pour des raisons de refus, il faut refuser parce que il y a des raisons de refuser. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation est telle que nous avons un rôle à jouer éventuellement dans cette situation. Il est important qu'on le joue activement. Si on ne joue pas ce rôle, nous allons subir. Et ça, c'est dangereux.
Merci Al Kitenge. Le sénateur José Masikini, quelle est la solution pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes? Partagez-vous déjà l'idée de Al Kitenge ou avez-vous plutôt une autre orientation?
Je suis d'accord avec lui, sauf que ce sont les scientifiques, les techniciens comme lui, qui doivent accompagner les politiques. Quand nous sommes revenus de Brazzaville, nous avons fait un rapport verbal au bureau du Sénat, qui a immédiatement réagi et qui a dit la première solution, c'est de constituer une équipe, comme il l'a dit. Une équipe interinstitutionnelle, accompagnée des scientifiques, pour pouvoir faire des contre-propositions et convaincre les autres. Au moment où je vous parle, nos recommandations sont en train de transmises au gouvernement et au chef de l'État. C'est à lui maintenant de jouer son rôle, de rassembler cette équipe dynamique avec des scientifiques pour pouvoir défendre nos points de vue, défendre nos intérêts. Ils ont raison, malheureusement ils ont raison. Nous sommes absents. Nous avons été absents pendant très longtemps. Et je l'ai dit une fois en plénière du Sénat, c'est parce que nos politiques, quand ils vont dans des missions à l'étranger, ils partent avec des chasseurs de primes, des gens qui ne représentent rien, des gens qui ne valent rien, qui vont juste pour percevoir de frais de mission.
Juste rapidement, est-ce que justement cet aspect est ressorti et est-ce que quelque chose va changer dans ce sens?
Mais espérons, espérons, parce que maintenant nous devons donner le coup de pied nécessaire pour pouvoir remonter en surface, et souffler un peu et se dire où on en est.
Merci, Monsieur le Sénateur José Masikini. Professeur, vous avez un petit léger temps de parole que vous allez récupérer. Professeur Albert Kabasele, le scientifique dont il est question ici, c'est notamment vous. Quelle est la solution et comment proposez-vous qu'on puisse résoudre ce problème?
Je suis en partie d'accord avec Al Kitenge quand il parle de l'absence de l'État dans ces négociations. Mais certaines des réunions ont été cachées à la RDC, il ne faut pas l'oublier. Et on a joué sur le fait de surprise. On a voulu surprendre la RDC. Mais je pense que la réunion de Brazzaville, la présence du chef de l'État congolais ne se justifiait pas. Donc il fallait prendre le recul, se préparer et se préparer pour récupérer le leadership.
Mais maintenant que le mal est... Professeur, maintenant que le mal a été fait, pour la suite, comment ce problème sera résolu?
Pour la suite, nous pouvons éviter cette guerre. Et pour l'éviter, nous pouvons proposer, parce qu'ils ont besoin d'eau, et j'en suis conscient, nous pouvons proposer au Tchad de tirer cette eau à partir du fleuve Chiloango. Le fleuve Chiloango, beaucoup de Congolais ne le connaissent pas. C'est un fleuve qui est dans le Congo central et qui prend ses origines dans le Cabinda et qui se jette dans l'océan Atlantique. Mais il est en grande partie sur le sol RD congolais et je pense que ce fleuve est une solution. Cela va pouvoir protéger le projet de du port en eau profonde. Ça va protéger la mangrove, ça va protéger Inga, et ça va protéger aussi le fleuve Congo qui commence à montrer certains signes de stress hydrique.
Merci professeur Albert Kabasele, merci à Al Kitenge et au sénateur José Masikini pour la participation à cette émission. Willem Lungamba était à la technique, Alain Irunga et Pele Kipelamondo m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais pour ce soir, c'est terminé. Merci de votre attention. Au revoir.